La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi en Daniel, le livre du prophète Daniel, chapitre 8, et nous lirons là le verset 14. Voyons-nous. Combien d'entre nous connaissent ce verset ici? Personne? Daniel, chapitre 8, verset 14. Et là, il est dit, « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Comment devrions-nous considérer ce verset, bien-aimés? Ellen White déclara dans le livre « La tragédie des siècles » à la page 443, paragraphe 1, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 8, verset 14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Ce verset, mes amis, devrait être considéré comme la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Ok ? Il ne s'agit pas du sabbat, il ne s'agit pas de la réforme sanitaire, et ces points sont importants, ô combien importants. Mais la base et la colonne centrale de la foi adventiste, qu'on se le dise, c'est la compréhension de Daniel 8, verset 14. C'est ce qui distingue ceux qui croient dans le retour de Jésus de tous les autres, mes amis. Et quel genre de compréhension devrions-nous avoir à propos de Daniel 8, verset 14? Dans le même ouvrage, à la page 530, paragraphe 3, il nous est dit « Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. » Et prêtez bien attention à ce que j'ai pris le soin de mettre en gras. « Le peuple de Dieu devrait comprendre imparfaitement. » Parfaitement. Parfaitement de l'inspiration. Parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chaque prédicateur, non, c'est chacun. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, dit-elle, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Elle dit que sans cette connaissance, mes amis, il ne nous est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. C'est pour cela que durant cette présentation, nous allons tâcher de creuser la parole de Dieu en profondeur pour avoir une claire et profonde compréhension de ce verset. Et j'aimerais vous inviter maintenant à vous rendre avec moi en Lévitique, chapitre 4, et considérons là le verset 27 à 35. Voyons-nous. Qui sont ceux ici qui n'ont pas une Bible ce soir? Si vous n'avez pas une Bible ce soir, mes amis, vous êtes en difficulté. Alors, rapprochez-vous de quelqu'un qui a une Bible et considérons ensemble Lévitique, chapitre 4, et lisons là du verset 27 au verset 35. Lévitique 4, du verset 27 au verset 35. Et il est dit au verset 27, et là l'Éternel parle, et il dit, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qu'il ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et le mettra sous les cornes de l'autel de l'Holocauste. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sous l'autel en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera, et notez bien cela, expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Et notez bien aussi cela, d'accord? Et je continue jusqu'au verset 35. S'il amène un agneau comme son offrande pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché. Il l'égorgera pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sous l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera, notez bien cela, l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Et notez bien cela également. Dans le service quotidien qui avait lieu dans le sanctuaire, le prêtre faisait une expiation qui accordait aux pécheurs repentants le pardon de ses péchés, comme nous l'avons lu. Et voyez-vous, cette expiation qui avait lieu dans le type était une illustration du fait que la mort du Christ sur la croix, eh bien, pourvoyait au pardon à chaque pécheur repentant. Je répète cela. Sur la croix a eu lieu une expiation, mes amis. Et cette expiation, d'après le type, pourvoyait au pardon du péché repentant. Maintenant, rendons-nous en Lévitique 23. Lévitique, voyons-nous. Lévitique 23, c'est cela. Et considérons là les versets 27 et 28. Quel verset ai-je dit ? 27 et 28, c'est exact. Et là, nous lisons, « Le dixième jour de ce septième mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sept convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Remarquez que ici, le dixième jour du septième mois était le jour des expiations. Okay? Et c'est un mot qui est au pluriel dans l'hébreu. D'accord? Et cela implique l'expiation de toutes les expiations. Et le résultat de cette expiation qui avait lieu le dixième jour du septième mois nous est révélé en Lévitique, chapitre 16, du verset 29 au verset 30. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Lévitique 16, verset 29 et 30, tout du moins, pour considérer le résultat de cette expiation qui avait lieu au jour antitypique des expiations. Lévitique 16, versets 29 et 30. Et là, nous lisons, « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous. » Et notez bien l'objectif de cette expiation. Afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Durant le service qui avait lieu durant ce jour spécial de l'année hébraïque, l'expiation qui était faite par le souverain sacrificateur, mes amis, pourvoyait à la purification du pécheur repentant. Et cela est une illustration du fait que depuis 1844, le service que Christ opère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, fait l'expiation finale qui pourvoit à la purification des péchés de chaque pécheur repentant. Donc, si je dois résumer ce que j'ai dit, en Lévitique 4, nous avons une expiation qui apporte le pardon. En Lévitique 23 et Lévitique 16, et Lévitique 16 très précisément, nous avons une expiation qui apporte la purification. Et voyez-vous, c'est exactement ce que les pionniers de l'Église adventiste du septième jour comprenaient. En effet, dans leurs principes fondamentaux de 1889, ils disaient « Il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, 19, et emportés du sanctuaire, tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. » Notez qu'ici, à cette époque de l'histoire de l'Église adventiste, les pionniers comprenaient que lorsque Christ est rentré dans la phase finale de son œuvre, eh bien, qu'il faisait l'expiation. Il ne disait pas que l'expiation était arrêtée à la croix. D'accord? Mais, lorsque nous considérons la croyance numéro 24 de l'Église adventiste du sixième jour d'aujourd'hui, il nous est simplement dit qu'il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant, et notez bien les propos, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Cette déclaration implique que l'expiation, mes amis, l'expiation est terminée à la croix. Et la raison pour laquelle nous pouvons être sûrs que c'est ce que cette déclaration implique est que lorsqu'ils ont tâché de réécrire l'histoire de notre Église, de l'Église adventiste du septième jour, eh bien, certaines personnes ont tâché de réinterpréter les choses. Lorsque Walter Martin, un ministre protestant, très connu d'ailleurs, a posé la question suivante dans le livre Question on Doctrine, à la page 369, et il pose la question aux adventistes en leur disant, « Étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel ?» Et à cette question, Lira Froome a répondu, « Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. » Mais il est allé plus loin. En plus de dire que les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases, il est allé jusqu'à dire, « Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. » Cet homme est une référence dans l'Église adventiste du sixième jour aujourd'hui. Et ce qu'il dit là, c'est la même chose, à peu de mots près, de ce qui est marqué dans les principes fondamentaux de l'Église aujourd'hui. Voyez-vous, mes amis, la vision que les pionniers adventistes avaient concernant l'expiation finale, eh bien, c'est quelque chose qui est en accord avec la Bible. Et ce n'est pas une petite chose, mes amis, d'avoir une vue erronée à ce propos. Car rappelez-vous, elle dit que sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Ça veut dire que notre compréhension de l'expiation finale, mes amis, est ce qui va déterminer si nous occupons le poste que Dieu nous assigne ou pas. en Daniel, chapitre 8, verset 14, le mot qui est traduit par purifier, lorsqu'il est dit que le sanctuaire sera purifié, vient de l'hébreu tzadak. D'accord? Tandis que en Lévitique 16 et au verset 30, le terme qui est traduit par purifier vient quant à lui de l'hébreu tahir. D'accord? Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble? En Daniel 8, 14, le mot traduit par purifier vient de l'hébreu tzadak. Alors qu'en Lévitique 16, verset 30, le terme traduit par purifier vient de l'hébreu tahir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mes amis, le livre de Daniel a en partie été écrit en araméen. Vous le saviez ça? Et pour ceux qui le savaient, est-ce que vous savez exactement de quand à quand le livre de Daniel est écrit en araméen? De quel passage jusqu'à quel passage? Eh bien, il faut savoir que la partie araméenne du livre de Daniel s'étend de Daniel 2, verset 4, et notez-le, de Daniel 2, verset 4, jusqu'en Daniel 7, verset 28. Et toute cette portion-là, mes amis, est écrite en araméen. Et cela est très important pour nous qui voulons comprendre Daniel 8, verset 14. Vous savez pourquoi? Parce que si Daniel 8, verset 14, était inclus dans la partie araméenne du livre de Daniel, nous n'aurions pas été capables de voir la différence, en fait. Or, Daniel 8, verset 14 est dans la partie hébraïque. Et cela nous permet de faire, d'observer qu'il y a une différence, en fait. Lorsque l'on nous parle du type, en Lévitique 16, verset 30, où il est question de Tahir, et lorsqu'on nous parle de l'antitype, en Daniel 8, verset 14, avec le terme, dans le même langage, l'hébreu, tzadak, en fait. D'accord? Et donc, en raison du fait que ces deux passages, un passage qui nous parle du type et un passage qui nous parle de l'antitype, sont écrits dans la même langue, en fait, eh bien, nous pouvons clairement voir la différence qui sont employées par ces termes. Et ici, nous avons un graphique qui nous montre comment Tzadak est traduit dans la version King James de la Bible, en fait. D'accord? Et notez que ce terme est souvent, le plus souvent, traduit par justifié, juste. OK? C'est principalement là la signification de ce mot, en fait. La justification. Le fait de justifier. Tandis que tahir, lorsque vous regardez ça, la manière dont il est traduit le plus souvent dans la Bible, et notamment dans la King James ici, mais ce doit être à peu de choses près la même chose dans les autres versions, il est question de purifier, de pur, de déclarer pur. D'accord? OK? Et notez cette différence. Notez cette différence. Alors, pourquoi avons-nous cette différence de termes qui sont employés pour décrire le même jour des expiations? Pourquoi n'avons-nous pas simplement une purification? Pourquoi le texte n'emploie pas le même mot, en fait, en Lévitique 16 et en Daniel 8, 14? Ça, c'est une première question que nous devrions nous poser. Mais surtout, la deuxième question est importante. Comment devrions-nous comprendre cette différence? Voyez-vous, Tahir et Tzadak sont employés au moins trois fois dans la même clause, le même verset, pour décrire deux aspects d'une même œuvre. Et je vous invite à considérer deux de ces versets. Le premier se trouve en Job, chapitre 4, verset 17. Où allons-nous? Exact. Job 4, verset 17. Et là, nous lisons, Job 4, verset 17. L'homme sera-t-il juste, Tzadak? C'est Tzadak ici. Devant Dieu, l'homme sera-t-il pur, Tahir? C'est Tahir qui est traduit ici. Devant celui qui l'a fait. OK? Et un autre texte, un deuxième et un dernier pour maintenant, nous allons considérer un troisième plus tard, se trouve en Psaume 19, verset 9. Où allons-nous? C'est exact. Allons-y donc promptement en Psaume 19, verset 9. Et là, il nous est dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Alors, droite ici, eh bien, vient de Tzadak. C'est Tzadak qui est traduit par droite, en fait. Certaines versions vont dire juste. Elles sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Là, c'est Ta'er qui est traduit par pur. Il éclaire les yeux. Ainsi, dans ces versets, nous voyons la complémentarité de ces deux termes, en fait, qui sont employés pour décrire la même œuvre. Et ces termes sont tellement complémentaires, mes amis, que les traducteurs de la version Septante de la Bible, vous savez ce qu'est la Septante? C'est une version de la Bible qui a été écrite en grec, notamment l'Ancien Testament, en fait, qui a été écrit en grec par 70 érudits juifs. Et lorsqu'ils ont retranscrit en grec l'Ancien Testament, en Daniel 8, verset 14, et en Lévitique 16, verset 30, ils ont mis un seul et même mot, en fait, alors que dans l'hébreu, il y a deux mots différents, et ils ont mis un seul et même mot. Et ce mot, en fait, qu'ils ont mis est katharizio, d'accord? Dans la Septante, en Lévitique 16, verset 30, et en Daniel 8, verset 14, le terme grec qui est employé dans ces deux passages pour purifier est katharizio. Et vous savez, c'est le même terme que l'apôtre Paul emploie en Hébreu 9, verset 23. Rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, en Hébreu 9, verset 23. Où allons-nous? C'est exact. Hébreu 9, verset 23. Et là, il nous est dit, « Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés, katharizio, fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. » Il nous parle ici des choses terrestres qui devaient être purifiées de la même manière que les choses célestes. Et dans le grec, c'est le terme katharizio qui vient relier Tzadak et Ta'er. Ainsi, ces deux termes hébreux, mes amis, sont complémentaires. Et ils expriment tous les deux aspects d'une même œuvre. Mais alors, la question que nous devrions nous poser, arriver ici, c'est pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'emphase sur l'aspect de la justification du sanctuaire? Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que les traducteurs ont mis « le sanctuaire sera purifié », mais si nous voulons être puristes, permettez-moi l'expression, ils auraient dû mettre « le sanctuaire sera justifié », puisque c'est Tzadak, et Tzadak est majoritairement traduit dans la Bible par « justifié », en fait. Et nous avons vu que ces deux termes ont deux significations différentes. Et à vrai dire, c'est la seule fois où les traducteurs ont traduit Tzadak par purifier. Tzadak, en réalité, n'a jamais ce sens de purifier. Alors, pourquoi Daniel a-t-il écrit Tzadak et non pas Taher pour dire que le sanctuaire serait purifié? Pourquoi a-t-il dit que le sanctuaire serait justifié? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que, en plus du fait d'être écrit en hébreu, Daniel 8, 14 est le seul passage où le sanctuaire est l'objet de Tzadak. Je reprends cela. Daniel 8, 14 est le seul passage dans l'Ancien Testament, mes amis, où le sanctuaire est l'objet de Tzadak, c'est-à-dire où on nous dit que le sanctuaire doit être justifié dans le texte hébreu. Donc, à nouveau, et je repose ma question, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'emphase sur la justification du sanctuaire? Et tout particulièrement, qu'est-ce que cela signifie que de justifier le sanctuaire? Rendez-vous avec moi, je vous prie, en psaume 77, verset 13. Où allons-nous? Psaume 77, verset 13. Et certaines versions, ce sera le verset 14, notamment pour ceux qui ont la Osterwald, comme moi-même. Et lorsque vous lisez dans une Osterwald, comme moi-même, il est dit, « Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel autre Dieu est grand comme Dieu? » Je dois vous dire que ma version ne traduit pas bien correctement ce verset. D'accord? Et si vous avez une version qui vous dit que tes voix sont saintes, vous devez savoir que votre version ne traduit pas bien ce verset. Pourquoi? Parce que le texte hébreu dit « Elohim beha kodesh derech ata », ce qui signifie « Dieu » littéralement. « Dieu, dans le sanctuaire, ta voix. » Ok? Et la version Martin, combien d'entre nous ici connaissent la version Martin de la Bible en français? Ok, si vous lisez la version Martin dans le psaume 77, verset 2, vous allez lire la chose suivante. Et ça, c'est la bonne traduction. « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » OK? Et la raison pour laquelle nous pouvons savoir que les versions qui disent « la voix est sainte », ce ne sont pas des versions qui traduisent correctement cela, c'est parce que, voyez-vous, le terme « kodesh » n'est pas un adjectif, mes amis, dans le texte hébreu. Sa morphologie est celle de « nom ». C'est un nom. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire. Et les traducteurs ont eu tort de dire que les voix sont saintes. Parce que c'est un adjectif lorsqu'ils font ça. Alors que dans l'hébreu, c'est un nom, en fait. Et lorsque cela est un nom, vous devez le traduire par le sanctuaire, en fait. Et voyez-vous, les voix de Dieu sont dans le sanctuaire. Est-ce que vous commencez à comprendre déjà, si je m'arrête ici, ce qu'implique la justification du sanctuaire, en sachant que c'est là que se trouvent les voies de Dieu? Vous savez, le sanctuaire qu'il y a dans le ciel, qui est le modèle, comme on l'a vu avec le pasteur Elvis, du sanctuaire typique qui est sur terre, le sanctuaire ou le temple est l'endroit, mes amis, où se trouve le trône de Dieu. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le psaume 11 et au verset 4. Où allons-nous? Le psaume 11 et au verset 4. Et considérons là ce qu'il est dit ici. Remarquez, l'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. D'accord? Les voies de Dieu sont dans son sanctuaire. Le trône de Dieu est dans le sanctuaire. Et qui dit trône, mes amis, dit roi, n'est-ce pas? Un roi qui est assis sur son trône, n'est-ce pas? Qui dit roi et trône dit royaume, n'est-ce pas? Mes amis, le siège du royaume de Dieu se trouve dans le sanctuaire. Daniel 8, 14 met l'emphase sur la justification du sanctuaire parce que l'œuvre du jugement, du jour antitypique des expiations, qui commença à la fin des 2300 soirs et matins, est une œuvre dont le but est de justifier les voies de Dieu, le royaume de Dieu, mes amis. Et c'est la raison pour laquelle le premier ange d'Apocalypse 14 déclare que l'heure de son jugement est venue. Vous savez, lorsqu'on lit l'heure de son jugement et qu'on lit et qu'on écoute le premier ange dire ça, bien souvent, nous pensons que, ah oui, l'heure va commencer ou Dieu va commencer à juger, oui. Et bien souvent, nous ne voyons que cela, mes amis. Mais est-ce que vous savez que Dieu lui-même est jugé aussi? Car il est dit que l'heure de son jugement est venue. Et la Bible, voyez-vous, nous parle de livres dans lesquels sont inscrits nos péchés. Et aussi, d'autres livres dans lesquels sont inscrits les noms, le livre de vie, D'accord? Et donc, tous les actes, toutes les paroles que nous prononçons, bonnes ou mauvaises, sont enregistrées soigneusement dans des registres, dans le ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Dieu, l'être omniscient, omniprésent, omnipotent, a besoin de mettre son nez dans ses livres pour savoir comment nous juger? Dites-moi, sincèrement. Non, non. Dieu n'a pas besoin d'étudier, mes amis, les registres qui sont contenus dans ses livres afin de déterminer qui est-ce qui est éligible au salut. Non. Mais c'est plutôt pour le bénéfice des créatures. Et ce, afin qu'il soit démontré que la justice a bien été rendue. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un roi et que vous n'arrivez pas à démontrer, mes amis, vous n'arrivez pas à démontrer que votre gouvernement est juste, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous risquez, mes amis? Vous risquez, pardon? Destitution? Tout à fait. Vous risquez une insurrection? C'est exact. Vous risquez un coup d'État, mes amis. Vous risquez un coup d'État. Et la raison, et c'est là la raison pour laquelle le royaume de Dieu doit être justifié, d'après ce que nous dit Daniel 8, verset 14. En réalité, il y a longtemps de cela, un ministre du royaume de Dieu a remis en question la justice de Dieu, la justice de son royaume. Rendons-nous en Ézéchiel, chapitre 28, et considérons là du verset 12 à 16. Où allons-nous? Verset 12 à 16. Et là, il est dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. » Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, de la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le japs, la saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service. Ira, can I have a glass of water, please? Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ici, il ne peut pas être question du roi de Tyr. Littéral, d'un roi terrestre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on nous parle de l'Éden. Or, il n'y avait pas de roi de Tyr, mes amis, à cette époque-là. Thank you very much. Il n'y avait pas de roi de Tyr à cette époque-là, voyez-vous. Il s'agit ici d'un être céleste, d'accord? Mais de quelle catégorie d'être céleste agit-il ici? Le texte nous dit un chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'un chérubin protecteur, mes amis? Un ange, oui. Mais quel type d'ange, bien précis? Quel est le rôle de cet ange? Au service de Dieu, la première place? Transmettre? Ok. Vous savez, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins aux ailes déployées qui protégeaient le propitiatoire sous lequel se trouvait la loi de Dieu, mes amis. Un chérubin protecteur a pour mission première de protéger la loi. Il est un chérubin protecteur, il protège la loi. En d'autres termes, c'est un garde des sceaux, un ministre de la justice. Satan, et ici on nous parle de Satan avant sa chute en fait, de Lucifer, était jadis un chérubin. Et comme nous l'avons dit, l'objectif et le rôle du chérubin est de protéger la loi de Dieu. Et je vous invite à noter Exode 25, versets 18 à 22. pour voir comment cela était expliqué lorsque Dieu décrivit à Moïse comment eh bien, le type devait être fait. Satan avait donc, ou Lucifer, devrais-je dire, à cette époque, eh bien, il avait donc accusé le royaume de Dieu d'être injuste. Et nous pouvons savoir le genre de propos qu'il a tenu, ou tout du moins quel était le contenu de ses propos. Un chérubin protecteur qui est déchu, eh bien, forcément, c'est qu'il a cessé de protéger la loi de Dieu. Et donc, il s'est mis à parler contre la loi de Dieu, contre l'expression même du caractère de son royaume. Autrement dit, et en résumé, si je dois résumer, eh bien, il s'est mis à parler contre la justice de la loi de Dieu. Et voyez-vous, Apocalypse 12, verset 4, que je ne prendrai pas, mais que je vous le donne en référence, nous dit que dans sa chute, ce chérubin jadis protecteur entraîna avec lui un tiers des anges. Mais voyez-vous, la Bible nous dit également qu'il y a des hommes qui le suivent. En effet, rendons-nous en Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 29. Où allons-nous? Ézéchiel, c'est exact. Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 29. Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 29. Et là, nous lisons, « Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas réglée. » Rappelez-vous que, qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Ô Dieu, tes voix sont dans ton sanctuaire. D'accord? Et nous savons que le royaume de Dieu se trouve dans le sanctuaire, le trône de Dieu, donc son royaume, le siège de son gouvernement. Gardez ça en tête et lisons maintenant attentivement Ézéchiel 18, versets 25 à 29. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meure, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meure. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il verra vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement, il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, « La voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, ô maison d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées ?» Voyez-vous, par une vie de péché, les hommes suivent Satan dans son accusation de la loi du roi des rois. L'expression même de sa manière de gouverner. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va prouver sa justice tout en justifiant le croyant et ce, sans changer sa loi. Et ça, nous le lisons en Romains, chapitre 3, du verset 25, tout du moins au verset 25 et au verset 26. Où allons-nous? Romains, c'est exact. Chapitre 3, versets 25 et 26. Romains, chapitre 3, versets 25 et 26, où nous lisons Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître, et notez bien cela, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Remarquez qu'il est dit qu'il doit être reconnu juste. Remarquez que là, il y a impliqué un besoin de justification, mes amis. Et comment cela est satisfait? Comment ce besoin de justification est-il satisfait? Eh bien, lorsque Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. Car voyez-vous, Jésus est venu sur terre. C'est parce que Dieu ne pouvait pas changer sa loi. Satan a été chassé du ciel. C'est parce que Dieu ne pouvait pas changer sa loi, mes amis. Et pourtant, Dieu a pourvu à un moyen pour le salut. Et comment cela se manifeste? Comment Dieu œuvre pour la restauration? Rendons-nous, si vous le voulez bien, au chapitre suivant, Romains chapitre 4. Où allons-nous? Romains chapitre 4, et lisons du verset 3 à 5. Romains chapitre 4, verset 3 à 5. Et là, il nous est dit, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » La justice dont on nous parle ici, elle est imputée, n'est-ce pas? D'accord. Ici, on nous parle d'une justification qui accorde au pécheur repentant le droit d'entrer, de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une justification qui est accordée de manière instantanée. Elle est imputée, d'accord? Et c'est un droit pour entrer dans le royaume. Mais voyez-vous, cette justice qui est imputée ne permet pas à celui qui la reçoit de voyager, de progresser sur cette route du royaume de Dieu. Il a besoin d'une autre justice. Il a besoin d'un autre élément. Romains, chapitre 6, verset 19. Où allons-nous? Romains, chapitre 6, verset 19. Et là, nous lisons. « Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. » Dans la version que j'ai, la Osterwald, 1996, le traducteur s'est permis une liberté. Okay? Il a dit, alors qu'il y a deux termes similaires dans le texte, il a pris la liberté de les traduire différemment. Okay? Si vous avez une Osterwald comme moi, il dit pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité. Or que le mot injustice et le mot iniquité, en fait, dans le grec, ce sont le même mot. C'est le même mot qui est présent, en fait. C'est anomia. D'accord? Donc, une traduction pure du verset serait comme suit, en fait. Servir à l'impureté et à l'injustice pour l'injustice. Ou si vous préférez, à l'iniquité pour l'iniquité. Le terme signifie, il peut impliquer ces deux choses-là, en fait. Mais c'est le même terme grec, en fait. Et la raison pour laquelle je vous précise cela, c'est parce que l'apôtre Paul ici fait une comparaison. Remarquez, ainsi. Ça veut dire qu'il se sert de la première clause de l'injustice pour l'injustice pour expliquer quelque chose dans la deuxième clause. Et là, il y a dans le grec deux termes différents. Ce qui est bien retranscrit, bien traduit dans la version que je lis. Ainsi, livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Autrement dit, ici, on a une autre. C'est là cette justice, donc cet élément dont nous avons besoin pour progresser sur la voie à laquelle nous avons accès par la justice imputée. Il s'agit de la sanctification, mes amis. C'est par la sanctification que nous progressons sur le chemin du royaume de Dieu. Et alors que nous exerçons la foi, nous sommes capables de recevoir davantage de la justice de Dieu, jusqu'à ce que cette foi devienne une attitude permanente envers lui. Mais cela ne sera pas de nous-mêmes, car rappelez-vous que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit en Galates 2, verset 20? « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, nous marchons en nouveauté de vie, en Jésus-Christ, et Christ en nous, par la foi. Lorsque nous voyons ces choses-là, la justice imputée, la justice, eh bien, qui est impartie, autrement dit, la sanctification, d'accord? Lorsque nous voyons cela dans la parole de Dieu, mes amis, eh bien, nous comprenons que le plan du salut, ou devrais-je dire, dans le plan du salut, l'objectif de Dieu n'est pas simplement de nous pardonner, vous savez cela? On est content lorsque Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais ce n'est pas uniquement ce que Dieu veut faire pour nous, mes amis. Dieu ne désire pas simplement nous pardonner, c'est-à-dire nous justifier, mais il désire nous restaurer, mes amis, c'est-à-dire notre sanctification. Et voyez-vous, c'est une expérience que le peuple de Dieu, vivant à l'époque où Jésus-Christ est en train d'œuvrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, doit avoir. Une expérience de justification, mais également de sanctification, mes amis. Rendons-nous en Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4. Où allons-nous? Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4. Et lisons là un troisième verset où Taher et Tzadak sont employés dans le même verset. Nous avons dit Malachie 3, versets 3 et 4. Et là, il est dit, en parlant de l'ange de l'Alliance, « Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront à l'Éternel. Ils présenteront des offrandes dans la justice. » Purifier, ici, vient de Taher. Offrir des offrandes dans la justice, le terme justice, ici, vient de Tzadak. Et on marque le verset 4 aussi. « Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. » C'est à ce moment-là, mes amis, que l'offrande est agréable à l'Éternel. Lorsque, eh bien, le Christ purifie son peuple. Rappelez-vous que le terme grec employé pour purifier dans Lévitique 16, verset 30 et Daniel 8, verset 14, est traduit par le même mot, en fait. C'est le même mot qui est dans la version Septante, en fait. Et nous avons vu que ce terme-là, quel était-il, le terme grec, vous vous en rappelez? Katharizio. Katharizio. C'est ce terme-là qui est traduit par purifier dans la Septante, dans la version Septante de Lévitique 16, verset 30 et de Daniel 8, verset 14. Et nous avons vu cela tout à l'heure. Et là, on a vu que Hébreux 9, verset 23 était le texte qui nous permettait de comprendre cela. D'accord? Parce que Hébreux 9, verset 23 nous parle de la purification du sanctuaire. Mais ce terme, katharizio, l'apôtre Paul l'emploie pour un autre objet. Je répète, ce terme, l'apôtre Paul l'emploie pour un autre objet que le sanctuaire, mes amis. Considérons comment katharizio est employé par l'apôtre dans les versets suivants. Rendons-nous à nouveau en hébreu. Et au chapitre 9, très précisément. Où allons-nous? 9. Et en hébreu 9, nous lions là le verset 14. Et là, il est dit, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, purifiera-t-il, katharizio, C'est catalysio qui est traduit ici par purifiera-t-il. D'accord? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Qu'est-ce qui est l'objet de la purification ici? Le sanctuaire? L'apôtre précise la conscience. D'accord? Et remarquez un deuxième verset. Hébreux 10, verset 2. Hébreux 10, verset 2. Il dit, « Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. » Là encore, catalyse est présent, est traduit par purifié. Et là, on nous fait comprendre qu'une fois purifiés, ils n'auraient plus eu conscience de leur péché. Donc, encore une fois, là, implicitement, c'est la conscience qui est purifiée. La conscience est l'objet d'une purification, mes amis. Mais qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que notre conscience? Nous entendons ce mot, nous le connaissons, mais qu'est-ce que la conscience? Vous savez, la conscience est la faculté psychologique que l'être humain a pour distinguer entre ce qui est bien de ce qui est mal. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, n'est-ce pas? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, ce qui a lieu dans le ciel doit avoir lieu sur terre. L'œuvre qui a lieu dans le ciel depuis le 22 octobre 1844, date à laquelle Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, à la fin des 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14. Cette œuvre, mes amis, qui a lieu en ce moment dans le ciel, doit avoir lieu dans notre vie. Car, vous savez, ce n'est que lorsque le péché sera purifié. Ce n'est que lorsque nous serons purifiés du péché que notre conscience sera purifiée du péché. En accomplissement de Malachie, chapitre 3, versets 3 et 4, eh bien que nos péchés qui sont marqués dans les livres célestes pourront être effacés. Et lorsque cela aura lieu, est-ce que vous savez ce qui se passera sur terre? Est-ce que vous savez ce qui se passera sur terre? Permettez-moi de vous inviter à prendre un texte avec moi, encore une fois. Apocalypse, chapitre 15, et lisons les trois premiers versets. Où allons-nous? Apocalypse, chapitre 15, et lisons les trois premiers versets. Et en lisant ces versets, rappelez-vous de ce que nous avons vu en Ézéchiel 18, versets 25 et 29. Où le peuple d'Israël disait que la voie de Dieu n'était pas droite. OK? Rappelez-vous de cela. Et lisons Apocalypse 15, versets 1 à 3. Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, sept anges qui tenaient les sept dernières plaies, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Je m'arrête ici. Qui est ce peuple? Apocalypse 7 nous dit qu'il s'agit des 144 000. Et il nous est parlé également d'eux en Apocalypse 14, du verset 1 à 5. Et lisons le verset 3 pour voir quelle sera l'expérience de ce peuple. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes voix sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont injustes. » Ah, 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 « Tes voix sont justes et véritables, ô roi des nations. » Nous avons là 144 000 Israélites spirituels qui se tiennent en opposition aux Israélites d'antan, qui, par leur vie dans le péché, suivait l'ennemi de nos âmes dans sa rébellion et dans sa contestation de la justice du caractère de Dieu. Et c'est ce peuple-là, mes amis, c'est ce peuple-là qui va justifier le royaume de Dieu, qui va justifier le caractère de Dieu. Les 144 000, mes amis. Et ils en auront terminé avec le péché et, que son, et qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, mes amis. Permettez-moi de faire une escale pour vous montrer une autre chose que je n'avais pas mis dans ma présentation, mais que l'Esprit me met à cœur de partager avec vous. Vous connaissez certainement, pour ceux qui sont dans le mouvement adventiste depuis des années, oui. Ce n'est pas l'objet de ma présentation, désolé. Nous devons nous efforcer d'en faire partie. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je le dis juste très directement. Ce n'est pas pour t'offenser. Tu m'excuseras si ça, tu l'as pris comme ça. Mais c'est parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation. J'estime que ce dont nous traitons là est bien plus important de savoir si c'est symbolique ou c'est littéral. Parce que c'est la caractéristique principale des 144 000 dont on ne parle jamais, bien souvent. Et on n'arrive jamais à connecter l'expérience des 144 000 avec Daniel 8, verset 14, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi on n'arrive pas à connecter ça aujourd'hui dans l'adventisme. Vous connaissez certainement Tyler G. Bunch. Je pense que les anciens ici le connaissent au moins. Il a déclaré en 1965 dans un magazine Ministry. C'est un magazine adventiste et c'est un magazine qui, et en réalité, sert beaucoup plus aux gens de l'extérieur afin qu'ils puissent découvrir, en fait, la foi adventiste. Un magazine pastoral, mais qui sert beaucoup aux gens qui s'intéressent à l'adventisme. Et là, il déclara, nous devrions nous rappeler que ce n'est que lorsque Jésus reviendra que nous serons rendus parfaits. Voilà ce qu'il déclara. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors, demandons à son collègue, Maurice L. Venden, et vous le connaissez parce que c'est lui qui a écrit le livre « Les 95 thèses », ok? Demandons à son collègue de nous expliquer la pensée. Nous sommes pécheurs. Nous serons des pécheurs jusqu'à ce que Jésus revienne. Or, des pécheurs ne peuvent pas produire d'obéissance. Tout ce que nous pouvons faire est d'abandonner tout espoir de produire une obéissance. Il a écrit ça en 1980. D'accord? Un pasteur très connu dans le milieu adventiste aujourd'hui. Cela, mes amis, est le reflet de la théologie adventiste aujourd'hui. Je dis bien d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est enseigné par rapport à ça? Il est dit que nous allons continuer à pécher. Parce qu'en fait, on est des pécheurs. Alors oui, nous sommes pécheurs. Mais mes amis, le péché, cela a une définition bien précise. Le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Je fais juste une parenthèse. La raison pour laquelle ces auteurs disent cela est que dans l'adventisme, depuis quelques années, on enseigne ce genre de théologie-là et raison pour laquelle les églises sont remplies de personnes qui vivent dans le péché, c'est parce que on croit en la Trinité, et lorsqu'on croit en la Trinité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus est venu dans notre chair, mais avec une nature différente à la nôtre. Et donc, comme ils croient en cela, eh bien, ils disent qu'ils ont cette compréhension du péché, en fait. Pour eux, le péché, c'est la nature, alors que la Bible nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Qui commence ici et qui se concrétise dans des œuvres. Mais le péché, mes amis, ce n'est pas la nature. Or, dans l'adventisme, aujourd'hui, on enseigne qu'on est pécheur. Mais mes amis, si on est pécheur, dans ce cas, Jésus-Christ est né pécheur. Et ça, c'est le raisonnement incontestable. Eh bien, pour ne pas arriver à cette conclusion, dans l'adventisme aujourd'hui, on enseigne que Jésus-Christ est venu avec la nature d'Adam avant le péché. Mais comment peut-il compatir alors s'il est venu dans une nature différente que la mienne, de la vôtre, de la tienne, mon frère, de la tienne, ma sœur? Comment il peut compatir à tes souffrances, à tes infirmités? Mes amis, ce n'est pas la peine de comparer cela. Ce n'est pas la peine de chercher à savoir qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce qui n'a pas raison. Je vous demande juste de prendre vos Bibles avec moi et nous allons voir ce que la Bible déclare. D'accord? Hébreux, chapitre 9, verset 28. Hébreux, où allons-nous? Hébreux, chapitre 9, verset 28, c'est exact. Et notez cela. De même aussi, Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je laisse vous poser une question. Avant d'aller plus loin dans mon explication. Combien d'entre nous ici ce soir croyons que Jésus reviendra? C'est tout? J'ai peur dans cette salle. J'ai peur. J'ai peur, mes amis. Combien d'entre vous ici ce soir se préparent pour le retour de Jésus? Il y a des gens qui ne se préparent pas pour le retour de Jésus. J'ai peur. J'ai peur, mes amis. Lorsque Jésus est venu sur terre la première fois, le texte nous dit que c'était pour s'offrir afin de porter les péchés de plusieurs. Mais lorsqu'il apparaîtra une seconde fois, c'est-à-dire à son retour, il apparaît sans péché. Où sont les péchés lorsque Jésus revient sur les lieux des cieux, mes amis? Attendez. Ce monsieur nous dit que nous allons pécher jusqu'à ce que Jésus reviendra. Si vous traduisez la pensée, n'est-ce pas? Il y aura le péché sous la terre. On est d'accord. Mais le peuple de Dieu maintenant, nous ce qui nous intéresse maintenant, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ceux qui se préparent pour le retour, la seconde venue de Jésus. Où seront leurs péchés, mes amis? Puisque Jésus revient chercher son peuple, et lorsqu'il revient, il ne porte plus le péché. Donc, où se trouve le péché du peuple de Dieu? Est-ce que vous pensez que si le peuple de Dieu, mes amis, si Jésus-Christ quitte le sanctuaire, arrête l'intercession, et que nous avons nos péchés sur nous, nous sommes pas quelque chose comme perdus? Oui! Oui! Le texte. Combien d'entre vous pensent que ce livre-là est la parole de Dieu? Mes amis, nous avons un texte biblique qui nous dit que lorsque Jésus reviendra, il ne porte pas le péché. Et il vient rechercher un peuple préparé. Un peuple qui, comme on l'a vu en Apocalypse 15, verset 3, qui dira quoi? Ah, tes voies sont pas droites? Non, tes voies sont justes. C'est un peuple qui ne suit pas Satan. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'un texte ne nous suffit pas. Peut-être. Alors, vous savez quoi? Dieu, il est bon. Amen. Et Dieu nous a donné un deuxième texte, mes amis. Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Où allons-nous? 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, véritablement. Elle me conduit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons différents de lui, semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se souille, continue dans la souillure. Que dit la parole de Dieu, mes amis? Alors, Maurice Elvenden, Et les prédicateurs modernes, et la théologie adventiste moderne, nous dit qu'on continuera dans la souillure jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit l'évangile de notre salut? Que dit l'évangile de notre salut, mes amis? Elle nous dit que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Jésus revient-il en portant les péchés? Non. Il revient sans péché, mes amis. Et lorsque nous avons cette espérance-là en lui, mes amis, nous nous purifions comme lui-même est pur. Et cela est possible, mes amis, parce que nous aurons reçu la justice du Christ, imputée et impartie, mes amis. Et voilà, mes amis, l'expiation finale. Voilà la signification de Daniel 8, verset 14. La justification du sanctuaire, la justification des voies de Dieu, la justification du royaume de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu qui fait ça, mes amis. Le peuple de Dieu. Satan a accusé Dieu. Dieu va susciter un peuple, mes amis. Dieu va susciter un peuple qui va, eh bien, justifier son royaume. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Ellen White a dit la chose suivante. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun, elle ne dit pas les pasteurs, les prédicateurs, elle dit chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, aujourd'hui, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des personnes qui prétendent se préparer pour le second avènement de Jésus et qui ne croient pas dans l'expiation finale que Jésus-Christ fait depuis 1844, qui ne croient pas que cette expiation a pour objectif la purification des péchés et de ce fait qui croient que nous pécherons jusqu'à ce que Jésus revienne, d'un côté, et malheureusement, c'est ce que la majorité dans l'adventisme officiel croit, c'est ce que la majorité du corps enseignant prodigue comme doctrine. Et de notre côté, nous avons des pionniers, nous avons des croyants qui comprennent Daniel 8, verset 14, et qui comprennent que lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées des cieux, il ne portera pas le péché, et que nous devrons de ce fait nous préparer. Et ils comprendront que cette préparation implique de suivre Jésus dans son œuvre, dans le sanctuaire céleste, de sorte que l'œuvre de purification qui a lieu dans le sanctuaire céleste puisse avoir lieu dans le sanctuaire terrestre, dans ton sanctuaire, 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 ton sanctuaire, dans notre conscience, mes amis, pour que notre conscience puisse être purifiée du péché, de sorte que lorsque l'intercession sera terminée, Christ nous enlève nos péchés. Il vient nous chercher. Il vient chercher un peuple qui est capable de chanter le cantique de Moïse de l'agneau, les 144 000, mes amis. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, nous pouvons dire que nous sommes tout ce que nous voulons. Ma religion, c'est ça. Ma religion, c'est ça. Ma religion, c'est ça. Oui, ma religion, c'est ça. Quelle est ta religion? Ah, ma religion, c'est telle et telle chose. Ma religion. Mes amis, voilà la religion de la fin des temps, mes amis. Voilà la religion de la fin des temps. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être baptiste, pentecôtiste, évangéliste, adventiste. Si vous n'avez pas cette religion-là à la fin des temps, mes amis, nous ne pouvons pas occuper la position nécessaire. Nous ne pouvons pas occuper la position qu'il est de notre privilège d'occuper, bien-aimé. Jacques 2, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Mes amis, je désire avoir cette religion, la religion pure et sans tache. Parce que c'est la religion de Dieu, vous savez. Et vous, ne voulez-vous pas l'avoir? Est-ce que vous pensez que Dieu nous demande l'impossible? Non, mes amis. Non. Non. Dieu nous envoie un triple message pour nous avertir que le jugement arrive. De sortir de Babylone, de délaisser les fausses doctrines qui nous empêcheraient de pouvoir atteindre ce niveau, mes amis, de sanctification. Et il nous présente la norme, les 10 commandements. Et c'est que la foi de Jésus, le moyen de pouvoir atteindre cette norme, mes amis. Et je vous invite à être présent ce week-end, car nous allons considérer ces choses de près. Est-ce que vous voulez vous préparer pour le retour de Jésus, mes amis? Amen. Moi, je le veux aussi. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur, car tu nous donnes un message pour notre temps. Tu nous donnes de comprendre l'expiation finale et cette expiation qui pourvoit notre purification. Et cette œuvre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accomplit en ce moment dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, tu désires la voir accomplir dans notre vie. Tu désires nous voir marcher dans la sanctification, de sorte que nous ne puissions pas suivre le grand rebelle, ainsi que ses agents, ses pasteurs, ses prédicateurs, qui veulent nous faire croire que cette religion n'est pas accessible, elle n'est pas pour nous. Mais Père, tu désires que nous marchions et que nous suivions Jésus partout où il aille. Et en ce moment, il purifie le sanctuaire. Et tu désires que nous soyons de ceux qui te justifient par une vie de sanctification. Alors donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous d'accepter la véritable religion pure et sans tache devant toi. Que nous puissions avoir cette espérance et nous purifier comme Christ lui-même reviendra et sera, ne portera plus le péché. Bénis-nous, Père. Continue à œuvrer dans notre vie. Nous t'en prions, dans le beau nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.